3 au 11 juin se tient à Marseille le cycle Parage de William S. Burroughs, cycle proposé par Alphabet Ville à l'occasion du centenaire de ce dernier. En écho, Radio Grenouille propose une pièce radiophonique de Nawal Fassal sur les ondes de l'Interzone, une création en partenariat avec l'INA Méditerranée. L'Interzone serait cette ville fantasmatique où se confondent réalité et fiction. Cet endroit entre lumière et crasse où vivent les ombres de notre monde. Se brancher sur la fréquence de l'Interzone, c'est plonger dans le cauchemar en filigrane de notre société de contrôle, avec, comme guide, William S. Burroughs et ses mots virus.
Are there any questions about the proposition that we are here to go into space? What are you? And you
about that?
One of them here. Why did you come here? What did you expect to learn? One of them here. Why did you come here? What did you expect to learn? What did you expect from me? What do you expect from me? Come on, tell me, I'm here. What do you expect from me?
Moi, William Seward B., maître après Dieu de cette rame de cam en rame d'âme, je vais dompter le monstre du Loch Ness avec une seringuette. Je vais réduire Satan à l'obéissance des automates et sublimer ses suppôts subsidiaires. Je vais promulguer une bulle sur le contrôle des naissances immaculées. Moi, William Seward B., je vous avertis que ce livre expulse ses pages dans toutes les directions. Kaléidoscope de panorama divers, peau pourrie d'Ariette et de bruit de la rue, de vesses et de cris de guerre et de grincement des rideaux de fer dans les ruelles commerçantes, cris d'horreur et de passion, éthos et pathos et pataquès, miaulement du chat fornicateur et piaulement ultrasonique du poisson-chat déplacé, charabia prophétique du brujo dans les transes de la muscade, claquement de vertèbres dépendues, hurlement des mandragores, soupir de l'orgasme, silence de l'héroïne dans le silence en contrepoint des cellules, assoiffé au petit matin. Voici la prophétie et la révélation. Tout ce que je peux capter, sans la moindre modulation de fréquence, sur mon poste à galène 1920 à antenne, braqué droit sur le spermament. Aimable lecteur, le chemin de la sortie est celui de l'entrée. Banquet et repas nus. Entrez, la gargote idéale pour jeunes et vieux, hommes et bêtes. Rien de tel qu'une goutte d'huile de serpent du Dr X pour te lubrifier les rouages. Et en avant les artistes. Dans quel camp es-tu, vieux? Tu es pour le grand froid mystique? Le cric gelé? Ou bien veux-tu que le bon oncle Bill te remette les yeux en face des trous? Je viens de tirer 15 ans sous le grand froid. Je suis entré et sorti, et rentré et ressorti, et rentré encore, et enfin sorti. C'est fini. Je suis dehors. Alors, écoutez bien ce que vous explique le vieux tonton Bill Burroughs, l'inventeur de la fameuse calculatrice régulatrice Burroughs, fondée sur le principe du cric hydraulique. Et vous aurez beau cogner sur toutes les touches, le résultat sera toujours le même à partir des mêmes coordonnées de base. J'ai fait mon apprentissage très tôt. Et à ma place,
latitude,
vous en auriez fait tout autre.
45 degrés, 46, 50, nord. 5 degrés, 48, 49. Si vous arrivez en ville maintenant, nous vous recommandons la prudence. L'interzone, c'est des signaux loin, latitude nord. Au plus bas. 74 très haut, degrés, au-dessus, 00, juste 21, longitude ouest. La nuit 29, 57, 16, nord. 90 04 30 l'orage ouest rouge. 48 degrés 51 12 latitude nord. 2 degrés 20 55 longitude est. Latitude 35 degrés 46 50 nord. 5 degrés 48 49 latitude ouest. 40 degrés 42 51 latitude nord. 74 degrés 00 21 longitude ouest. 29 57 16 nord. 90 04 30 ouest. 48 degrés 51 12 latitude nord. 2 degrés 20 55 longitude est.
Imagine que l'arrière-plan de la réalité, ce que tu vois là-dehors et que tu crois réel, les rues, les gens, les arbres, les collines, le ciel, se déchirent subitement. Sans doute un chant viril, comme un grand vent secoue un arbre de fer, feuille morte dans une pissotière l'hiver.
J'aime cette petite déchirure qui s'y montre la bite. Simon aime tous les bruits de pas sur les feuilles mortes,
odeur de guerre et de mort, nuages de poudre rabattus sur la bouche, nuages de poudre et cheveux bruns. La mort arrive à la vitesse d'un million de vents. Le ciel qui nous abrite est fin comme du papier ici. Cet après-midi, alors que je regardais le ciel déchiré ployé sous le vent, je l'ai vu se mettre à basculer, se déchirer, s'effilocher. Pris à New York, sous les brutes du village, le fifre rabat le ciel. On ferme, messieurs. Voici l'histoire favorite de Brian Gysin pour s'endormir. Il y a des milliards d'années, semble-t-il, un géant se nettoyait les doigts. Un de ces bouts de crasse est notre univers qui tombe vers le sol.
La CAM est une équation cellulaire qui enseigne à l'utilisateur des faits d'une valeur générale. J'ai énormément appris en utilisant la CAM. J'ai vu la vie mesurée dans des gouttes de solution de morphine. J'ai vécu la privation atroce du sevrage et le plaisir du soulagement lorsque les cellules assoiffées de CAM boivent à la seringue. Tout plaisir n'est peut-être que dans le soulagement. J'ai appris le stoïcisme cellulaire que la CAM enseigne à l'utilisateur. J'ai vu une cellule de prison pleine de camés malades, silencieuse et immobile dans leur misère individuelle. Il savait la vanité de se plaindre, de bouger. Il savait que fondamentalement, personne ne peut aider personne. Personne ne possède de clés, de secrets qu'il pourrait vous révéler. J'ai appris l'équation de la cam. La cam n'est pas comme l'alcool ou l'herbe, un moyen de jouir davantage de la vie. La cam n'est pas un plaisir, c'est un mode de vie.
Il m'examine derrière ma gangue de chair velléitaire. La chair ectoplasmique de l'organisme en cours de renonce. 15 kilos nés du néant en un mois de cure. Une sorte de mastic rose et mou qui disparaît à la première caresse silencieuse de la cam retrouvée. J'ai vu ça. Vu un type perdre 10 livres en 10 minutes. Tout debout dans sa chambre. La seringue dans la main droite et l'autre retenant son pantalon. Sa chair répudiée se consumant dans un halo jaune et glacial. Et lui, toujours planté entre les quatre murs de cette chambre d'hôtel new-yorkais. Table de nuit jonchée de boîtes de cachou, mégots jaillissant en cascade de 300 riers, mosaïque des nuits d'insomnie et de fringales soudaines du drogué en renonce, qui console sa chair sevrée.
La drogue comme le voile d'un mystère à peine levé, à peine effleuré, une des portes ouvertes sur le monde des esprits et des paumés, des foutraques et des parias, renégats asphyxiés, une des autoroutes vers le grand bidonville où dansent les anciens dieux, une des courroies de transmission vers la grande fissure. Réagencement quasi géographique de la même réalité, reconnaissance de ses pairs par un branchement sur une seule et même fréquence, quelques hertz, un petit pas de côté. Et vous y êtes.
La drogue s'entoure de magie et de tabous, de formules secrètes, de malédictions et de rites. J'étais capable de dénicher mon contact de Mexico au radar. Passez trop ici, la prochaine à droite. Maintenant à gauche, encore à droite. Et il était là, avec son masque de vieille femme sans dents et ses yeux abolis. Je connais un fourgueur de schnouf qui fait son parcours en chantonnant et tous les gens qu'il croise reprennent son refrain sans s'en rendre compte. Il est si gris, si anonyme et spectral qu'il ne le voit même pas et s'imagine que la chansonnette leur est venue toute seule en tête. Ses clients le repèrent en se branchant sur le refrain du jour. On voit parfois jusqu'à 50 camélocteux et piaulants de souffrance filer au train un môme qui joue de l'harmonica. Et soudain, il tombe sur le type. Contact, la connexion, le fourgueur de cam, le vrai camelot.
Thank you.
Ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas une révélation, c'est un autre ordre du monde. Et pendant que la brutalité se répand dans vos veines, vous captez une autre pulsation. Cardiaque, première. Une autre pulsation qui vous guide et vous fait repérer les autres, les agents, la face à peine cachée des gens que vous croisez dans la rue. Et parmi eux, des usurpateurs, des faux, des personnages non joueurs de notre réalité, dont la cervelle a été aspirée par de minuscules vers. Incarnation d'un schéma sans dieu ni maître, déviation absurde, si grotesque qu'on ne peut l'appréhender, des corps possédés. Il y a les agents de l'innommable et ceux du contrôle. Il y a les terribles regards, vides d'humains et pleins de rouages. Et pendant que des milliers de clochettes vous désinguent le ciboulot, alors seulement arrive la panique. Ce moment où vous voyez clairement ce qu'il y a au bout de votre fourchette.
Come by and he'd buy you up a shot of morphine. Well, they never did that for me.
Well, they don't do that for anyone anymore. Narcotics have been systematically scapegoated and demonized. The idea that anyone can use drugs and escape a horrible fate is anathema to these idiots. I predict in the near future, right-wingers will use drug hysteria as a pretext to set up an international police apparatus. An old man, I may not live to see a final solution of the drug problem.
You might have missed your calling. You should have been a philosopher.
Well, Bob, in another life, perhaps. In another life.
Lions in the street. Lions in the street and roaming dogs in heat. Yeah. Rabid foaming, a beast caged in the heart of the city. Is everybody in? Everybody in? Ceremony's about to begin. The body of his mother rotting in the summer ground, he fled the town.
Yeah!
Went down south and crossed the border.
Yeah.
Left the chaos and disorder back there over his shoulder. One morning you woke in a green hotel with a strange creature groaning beside him. Sweat ooze from its shiny skin. Is everybody in? The ceremony is about to begin. All I have is a vague story. The Jim Morrison. Jim Morrison had drowned in a bathtub in Paris. Seems a goddamn odd thing to happen to me. Lions in the street. Lions in the street and roaming dogs in heat. Rabid foam in a beast cage in the heart of the city. Is everybody in? Is everybody in? Everybody in?
Is everybody in? Is everybody in?
Jim Morrison, the beneficent influence of Rambo, Rambo. Jim Morrison, the beneficent influence of Rambo, Rambo. Is everybody in?
Un seul agent peut en contrôler des milliers d'autres, mais il lui faut des lignes de coordonnées. Certains opèrent sur les circuits de la dope et des jeunes quilles de la terre, et d'autres croisent les lignes de certaines pratiques sexuelles. Un de nos agents se fait passer pour un écrivain, auteur d'un soi-disant roman porno, Le Festin Nu, dans lequel il décrit le truc de la mort orgasme. C'est un piège, ils sont tombés en plein dedans.
Survivre. Voilà le nom du jeu, William. Le plus dégueigné des hippies est mon messager. N'attendez pas de radieux, de lumineux émissaires. Attendez-vous à voir des êtres mutilés et marqués, dans leur esprit comme dans leur chair. Ce n'est qu'un film projeté à l'envers.
Les dirigeants allument des rayons à images qui inondent le monde de répliques. Le film réalité devient maintenant instrument et arme du monopole. Travaillez pour le studio de réalité, sinon vous allez voir comment ça fait d'être en dehors du film. Littéralement sans même assez de film pour vous traîner d'ici jusqu'au coin de la rue, tous les objets devenus bruts et coupants qui déchirent la chair nue. Il sut la raison de la souffrance, de la peur, du sexe et de la mort. Tout ça c'était pour garder des prisonniers humains emprisonnés dans leur corps physique, pendant qu'un monstrueux matador agitait sa cape dans le ciel, épée prête à tuer.
It's summer, spirit of early mists and showers. Ixtah, goddess of ropes and snares. Ixchel, the spider web that catches the dew of morning. Zui Kok, virgin fire, patroness of infants. Adziz, the master of cold. Kaku Bucket, who works in fire. Ixtub Doom, she who spits out precious stones. Ex-Chun Chan, the dangerous one. Apuk, the destroyer. Hiroshima, 1945, August 6. 16 minutes past 8 a.m. Who really gave that order?
Answer, control. The ugly American, the instrument of control.
Question, if control's control is absolute, why does control need to control?
Answer, control needs time.
Question, is control controlled by its need to control?
Answer, yes.
Why does control need humans, as you call them?
Wait, time, a landing beam. Death needs time like a junkie needs junk.
And what does death need time for?
The answer is so simple. Death needs time for what it kills to grow in, for our poop's sake.
Death needs time for what it kills to grow in, for our poop's sweet sake, you stupid, vulgar, greedy, ugly American death sucker. Death needs time for what it kills to grow in, for our poop's sweet sake, you stupid, vulgar, greedy, ugly American death sucker. Like this.
La société de contrôle contrôle notre contrôle et contrôle les portes et les fenêtres par lesquelles on la voit. La société de contrôle contrôle non plus par enfermement, mais par contrôle contrôle continu et communication instantanée. Les mécanismes de maîtrise et de contrôle se font toujours plus immanents au champ social. Diffusés dans le cerveau et le corps de citoyens. Cela contrasterait avec les sociétés antérieures où les coutumes, habitudes et pratiques étaient générées par des systèmes institutionnels qui fonctionnaient comme autant de milieux clos. École, caserne, usine, etc. La fin de la Seconde Guerre voit s'accélérer la mutation de ces sociétés vers un nouveau modèle de pouvoir. Le contrôle. Cette période de passage est celle de la crise généralisée des milieux d'enfermement. On en multiplie les réformes. Lesquelles auraient comme objet véritable de gérer leur agonie et d'occuper les gens. Jusqu'à la totale mise en place du contrôle. Contrôle qui est le nom que Burroughs propose pour désigner le nouveau monstre Joli Monstre. Dans cette crise, certaines réformes peuvent marquer d'abord de nouvelles libertés. Mais participer aussi à des mécanismes de contrôle qui rivalisent avec les plus durs enfermements.
Je prends ma propre personne comme point de repère pour juger les tendances actuelles et futures. Non par mégalomanie, simplement à défaut de tout autre point de repère. L'observateur William, 023. Les tendances actuelles peuvent se résumer en un mot. Abîme. Des abîmes s'élargissant sans cesse. Il y a un abîme entre 023 et les gens capables d'estourbir des bébés phoques, de foutre le feu aux chats, d'énucléer des lémuriens à coups de fronde. Et ce qui déclare, pour moi, les animaux constituent un magnifique outil de recherche. Recherche généralement inutile, mais qui sauve néanmoins des vies. Des vies humaines, quand il y a déjà trop d'hommes sur la planète. 023 n'en a rien à foutre. Il verse des dons à Greenpeace, au centre des primates de Duke University, aux abris pour animaux. Pas un sou pour la recherche du cancer. Un abîme entre 023 et des partisans fanatiques de la lutte contre la drogue tels que Daryl Gates, le chef de la police de Los Angeles, qui a déclaré que les gens qui fument un joint de temps en temps devraient être fusillés, ou tel que le dénommé Davy, qui a publié dans SWAT « Tous les trafiquants de drogue devraient être sommairement exécutés, si jeunes soient-ils. Ils ont déjà plusieurs meurtres à leur actif. » Dans la même catégorie, on peut ranger ceux qui veulent casser du bougnoul, du pakistanais, du PD, et tous ceux qui arborent un autocollant du style « Tu es un PD pour Jésus ». Abîme. Nos dirigeants s'efforcent désespérément de produire un individu moyen et malléable. Mais en raison de la proximité forcée qui nous est imposée, des divergences d'intérêts et de goûts irréconciliables se trouvent renforcées et aggravées. De fait, l'Homo sapiens est en train de se diviser en sous-espèces. 023 prédit que cette tendance va se poursuivre et s'aggraver et se traduira tôt ou tard par des différenciations biologiques fondamentales. Les gouvernants, coupés d'observateurs intelligents et attentifs, perdront le contrôle. Les rapports qu'ils entretiendront, les accords et conventions qu'ils passeront seront de plus en plus détachés des tendances réelles. Nous savons où est notre devoir. Les scientifiques s'obstineront à rejeter les évidences concernant la perception extrasensorielle et les soucoupes volantes pour se retirer dans leur tour d'ivoire.
Quelle est l'importance du pouvoir dans la machine de destruction? Bien sûr, le pouvoir est la machine de destruction. C'est-à-dire que l'exercice du pouvoir pour l'amour du pouvoir est précisément la machine de destruction. D'autres pense qu'il s'agit de quelque chose que nous avons déjà eu dans l'histoire et peut-être que ce n'est pas entièrement vrai. Le pouvoir à l'ancienne mode avec le généralissime qui fusille le gouverneur à travers son bureau, comme Franco l'a fait avec ses gouverneurs en les appelant et les canardant de l'autre côté de son bureau, eh bien, c'est un pouvoir à l'ancienne mode avec des buts très limités qui se mélangent avec le pouvoir pour l'amour du pouvoir, tel que nous le voyons maintenant, et cela, ce serait confondre une verrue qui disparaît et voilà un cancer qui apparaît. Et l'exercice du pouvoir pour le goût du pouvoir n'est exercé que pour des raisons de destruction. Il n'y a pas la moindre trace d'autodéfense. C'est-à-dire que les gens qui exercent le pouvoir maintenant sont à la recherche de l'annihilation totale et ne cherchent pas du tout l'autodéfense à se préserver eux-mêmes.
Now, somebody wants someone else's spiritual. You see, the whole idea of an ideological
conflict is they want something else. They want a different kind of appropriation of monopoly, but basically it's about the same thing.
Rien n'est vrai, tout est permis. Les derniers mots de Hassan Issaba. Il filma des couchers de soleil, des nuages, de l'eau de ciel. Il projetait la couleur sur des vastes écrans réflecteurs, reflétant le bleu du ciel, le soleil rouge, l'herbe verte, et la ville dissoute dans la lumière, et les gens disparaissaient les uns dans les autres. Il n'y avait que de la couleur et de la musique et du silence dans lequel les mots de Hassan Issaba passaient. Conseil, syndicat, gouvernement de la Terre, payez. Rendez la couleur que vous avez prise. Payez rouge. Rendez le rouge que vous avez volé pour vos drapeaux menteurs et vos enseignes. Rendez ce rouge au sang et au soleil. Payez bleu. Rendez le bleu que vous avez volé et stocké. Le bleu que vous avez parcimonieusement versé dans vos comptes-gouttes de cam. Rendez le bleu que vous avez volé pour vos uniformes. Rendez ce bleu à la mer et au soleil et aux yeux de la terre. Payez vert. Rendez le vert que vous avez volé pour votre argent. Et toi, main forte étirant le peuple légume, rendez le vert que vous avez volé pour votre affaire verte. Pour vendre les peuples de la terre et pour vous embarquer dans le premier canot de sauvetage déguisé en travesti. Rendez ce vert aux fleurs et à la jonque et à la rivière et au ciel. Conseil, syndicat, gouvernement de la terre, rendez les couleurs que vous avez volées. Rendez la couleur à Hassan Issaba.
Entraîne ses hommes à s'identifier à la mort. Il emmène ses nouvelles recrues devant une carcasse de cheval qui pourrit au soleil et tripée par les vautours. Kim leur désigne la charogne fumante dans la chaleur écrasante de midi. Bon, roulez-vous là-dedans. Quoi ? Roulez-vous dedans comme des chiens de guerre. Imprégnez-vous de l'odeur de la mort jusque dans vos chaparrales, vos armes, vos tignasses et vos bottes. La plupart d'entre nous ont commencé par gerber, mais à force nous y sommes faits. Et après les vautours nous suivaient partout là-bas vos becs. Nous pénétrions toujours dans une ville en marchant sous le vent. Tous les pecs nous en ont les tripes en révolution. Bonté divine, mais qu'est-ce que cette odeur atroce, l'odeur de la mort, braves gens.
Guère exagéré de dire que toute recherche importante est secrète jusqu'à ce que quelqu'un vende la mèche. L'infrason, par exemple. Je cite un article du Sunday Times du 16 avril 1967, acoustique par Frank Dorsey, sous le titre « Joshua savait une ou deux choses ». Le monde ne manque manifestement pas d'armes fatales. Pourtant, une équipe de savants français met au point à Marseille une machine à rayons mortels destinée à offrir une méthode de destruction humaine tout à fait nouvelle. Le projet a pris corps lorsque le laboratoire électroacoustique a déménagé il y a 3 ans. L'équipe s'est plainte de maux de tête et de nausées. Une enquête a été ouverte. Les ondes magnétiques et les ultrasons, d'abord suspects, furent éliminés. L'un des techniciens sortit un ancien appareil à détecter l'infrason, c'est-à-dire des vibrations de l'air qui oscillent à moins de 10 périodes par seconde ou 10 Hertz. L'oreille humaine enregistre comme son des vibrations allant de 16 à 20 000 Hertz. Cet appareil fut employé pendant la Première Guerre mondiale pour distinguer le bruit des canons des mouvements de train trop lointains pour être identifiés à l'oreille. Il identifia rapidement la source du malaise, le ventilateur géant d'une usine proche. Après avoir changé la fréquence du ventilateur, l'équipe de 5 hommes, dirigée par le professeur Vladimir Gavro, décida de rechercher davantage les propriétés de l'infrason. Comme chacun sait, le son est une succession d'ondes par lesquelles l'air est alternativement comprimé et décomprimé. Les vibrations rapides passent à travers les corps solides ou rebondissent en faisant habituellement peu de dégâts, même quand elles sont très puissantes. Mais une vibration lente, inférieure au niveau auditif, peut produire une sorte d'action de pendule, une réverbération sur les objets solides qui augmente rapidement jusqu'à une intensité insupportable. Pour étudier le phénomène, l'équipe a construit un sifflet géant auquel elle a fixé un tuyau à air comprimé avant d'y mettre la pression. Le premier essai a failli nous coûter la vie, dit le professeur Gavreau. Heureusement, nous avons pu l'arrêter rapidement. Nous fûmes tous malades pendant des heures. Tout vibrait en nous, l'estomac, le cœur, les poumons. Les personnes des autres laboratoires étaient malades et furieuses. Le premier coup était audible jusqu'à 190 Hz seulement. Il avait une force acoustique d'environ 100 watts par rapport à 1 watt pour le sifflet d'un arbitre de football. À partir de ce moment, l'équipe a travaillé à baisser la fréquence et a pris soin de garder une faible puissance. Un sifflet plus grand. Et le Royaume-Uni. Afrique. Les armées souterraines opèrent dans les grandes villes, abreuvant la police de faux renseignements, moyen de lettres et de coups de téléphone anonymes. On diffuse de fausses alarmes sur les ondes courtes pour diriger les voitures de police vers des crimes et des émeutes inexistants, ce qui nous permet de frapper ailleurs. Les escadrons de faux policiers fouillent et assomment des bourgeois. De faux ouvriers des ponts et chaussées détruisent les rues, cassent les tuyaux d'eau, sectionnent les câbles électriques. Des machines à infrasons font sauter toutes les sonnettes d'alarme de la ville. On s'accorde sur des objectifs fondamentaux. Nous avons l'intention de marcher sur la machine policière où qu'elle soit. Nous avons l'intention de détruire la machine policière et toutes ses archives. Nous avons l'intention de détruire partout l'organe de presse de la machine policière qui se cache sous le nom de presse mondiale. Pour parler clairement, nous avons entendu assez de merde. Nous avons l'intention d'anéantir tout système verbal dogmatique. Nous avons l'intention d'anéantir tout système verbal dogmatique.
The soul, doctor. And you know, language is a pipe from outer space.
Bien sûr,
sûr.
Les images et les mots en tant qu'instruments de contrôle atteignent leur plus haut développement. C'est l'expression, ou plutôt l'usage de ces instruments. Pour arriver à l'origine, bien sûr, il faudrait examiner ces instruments eux-mêmes, c'est-à-dire la nature véritable des mots et des images, et c'est un domaine où très peu de précision a... C'est un domaine dans lequel il y a très peu de précision de pensée. On ne sait pas ce que le mot est et on ne sait pas exactement ce que l'image est. L'étude d'un langage hiéroglyphique montre bien sûr que les mots sont en fait des images, que le mot écrit est une image. Le rapport exact entre le mot et l'image est obscur. Par exemple, si je tiens un écriteau avec le mot rose écrit dessus et qu'on le lit, on sera forcé de se répéter le mot pour soi-même. Mais si je vous montre l'image d'une rose ou un hiéroglyphe, on n'a pas nécessairement besoin de répéter le mot, on l'enregistre. C'est la différence entre un langage hiéroglyphique et un langage syllabique.
Des expériences de perception de points blancs distribués au hasard sur un écran, qu'un homme a tendance à trouver les formes et les images où, à parler objectivement, il n'y en a pas. Son processus mental forme ce qu'il voit. Les rythmes alpha, à environ 13 par seconde, sont notre vitesse de perception qui peut varier d'un individu à l'autre selon l'âge et peut-être selon la culture. Ils sont les plus élevés lorsque le cerveau est inoccupé, à la recherche d'un modèle qui peut être auditif, se déplaçant à la vitesse du son, ou visuel, se déplaçant à la vitesse de la lumière. Les sons rythmés, les films et la télévision imposent des rythmes extérieurs au cerveau, alternant les ondes du cerveau qui, autrement, auraient été pour le moins aussi uniques que nos empreintes digitales. Il est tout à fait possible que les enregistrements électroencéphalographiques d'une génération de spectateurs de télévision soient semblables ou même identiques. Une société orale, se déplaçant à la basse vitesse du son, pourrait fonctionner dans l'obscurité. Au commencement était le verbe, et le verbe s'est fait chair dans l'obscurité. Mais avec l'invention de l'écriture sous toute forme, la lumière fut nécessaire pour voir l'image qui devint une autre forme de la prolifération dont les limites sont la vitesse de la lumière. La seule et unique chose qui ne puisse être enlevée de l'image est la lumière. Toute autre chose peut être entièrement transformée ou peut disparaître. Le changement est une fonction du nombre. Et aujourd'hui, à l'âge électronique, notre seule constante intéressante est 300 000 km à la seconde, la vitesse de la lumière, laquelle n'atteint pas la vitesse de l'électricité. Le mot est donc à sa vitesse la plus lente lorsqu'il est parlé, 340 mètres secondes, la vitesse du son. À sa rapidité maximale lorsqu'il est vu, projeté comme une image à la vitesse de la lumière.
Ce que je pense de l'humanité, je crois qu'elle a des potentialités, mais les hommes auront à accomplir une étape fondamentale Au début de ce qu'on a appelé l'homme moderne était le langage, au commencement était le verbe. Mais il faudra que l'homme dépasse les mots qui sont un outil démodé, un outil dépassé. Et la vie s'intègre à un outil qui est maintenant parfaitement démodé. Si les grands dinosaures ont survécu, c'est parce qu'ils étaient grands et ils sont devenus de plus en plus grands. Et c'est ça qui a finalement conduit à leur extinction. La forme actuelle de l'humanité résulte très probablement des mots. Et à moins que l'homme puisse se défaire de cet outil qui est maintenant périmé, lui aussi ira à son extinction.
La fin est ambiguë, ça se termine sur un sourire. Pourquoi ce sourire? Le sourire signifie qu'ils ont déjà échappé à nos contraintes. Le sous-titre du livre est « Un livre des morts ». On ne peut plus rien leur faire.
Connection to the starry dynamo and the machinery of night. Whom poverty and tatters and hollow eyes and hide, set up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz. Who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated. Who passed through universities with radiant cool eyes, hallucinating Arkansas and Blake White tragedy among the scholars of money and war, who were expelled from the academies for crazy and publishing obscene oaths on the windows of the skull, who cowered in unshaven rooms in underwear, burning their money in waste baskets and listening to the terror through the wall, who got busted in their pubic beards returning to Laredo with a belt of marijuana for New York, who ate fire in paint hotels, or drank turpentine in Paradise Alley to death, or purgatoried their torsos night after night, with dreams, with drugs, with waking nightmares, alcohol and cough and endless balls, incomparable blind streaks of shuddering cloud and lightning in the mind, leaping toward poles of
moi,
Canada and Patterson,
William Seward Bee. Un écrivain ne peut décrire qu'une seule chose, ce que ses sens perçoivent au moment où il écrit. Je ne suis qu'un appareil d'enregistrement. Je ne prétends apposer ni histoire, ni intrigue, ni scénario, dans la mesure où je parviens à effectuer un enregistrement direct de certains aspects du processus psychique, je puis avoir un rôle limité. Je ne cherche pas à distraire, je ne suis pas un amuseur public. On appelle ça la possession. Tout semble se passer comme si j'étais habituellement présent, mais susceptible de perdre la tête de temps à autre. C'est faux. Je ne suis jamais là, ou du moins jamais en parfait état de possession, mais plutôt dans une situation qui me permet de prévoir les mouvements imprudents. En fait, mes occupations principales consistent à patrouiller. Si rigoureux que soient les réseaux de protection, je suis toujours simultanément à l'extérieur, en train de donner mes ordres, et à l'intérieur de cette gangue de gélatine,
de cette camisole de force qui s'étire et se déforme pour se reformer. Inéluctablement.
Vous venez d'entendre, sur les ondes de l'Interzone, une pièce radiophonique de Nawal Fassal, dans le cadre de Parage, de William S. Burroughs, proposé par Alpha Béville, avec les extraits de
William Burroughs et Brian Geisen à Paris, diffusé dans l'émission Ouvrez les guillemets par la RTF le 22 avril 1974, William Burroughs dans l'émission Du côté de chez Fred, diffusé sur France 2 le 28 mars 1990, Burroughs Geisen Paris 1981, dans Les Aventures de l'Esprit, diffusé sur France 3 le 4 mai 1990, Monsieur William Seward Burroughs, Atelier de création radiophonique, diffusé sur France Culture le 12 avril 1970. Entretien avec William Burroughs, 5 et dernier, diffusé sur France Culture le 12 mars 1976. William Burroughs, émission Un siècle d'écrivains, diffusé le 8 mai 2000 sur France 2.
Musique.
12 têtes mortes des Tétines Noires, Transport de Guédalia Tazartès, Dead City Radio de William Burroughs, Everybody's In, William Burroughs and the Doors, Music is Mat de Boards of Canada, Valse Sentimentale de Clara Rockmore, Oblivion d'Astor Piazzolla et une lecture de Allen Ginsberg à Chicago en 1959.
Participation.
Avec la complicité d'Emmanuel Moreira et Lauriane Toulmont.
Thanks to the laboratory age. Thanks for prohibition and the war against drugs. Thanks for a country where nobody is allowed to mind his own business. Thanks for a nation of finks. Yes. Thanks for all the memories. All right, let's see your arms. You always were a headache and you always were a bore. Thanks for the last and greatest betrayal of the last and greatest of human dreams.
Sur les ondes de l'Interzone, une création de Nawal Fassal, production Radio Grenouille, en partenariat avec l'INA.